J'avais appelé cette. J'avais titré la communication initialement The King and I en référence à une certaine comédie musicale de Broadway qui eut un long succès. Et si Hollywood se chargea de mettre en boîte un épisode documenté de l'histoire coloniale britannique, la rencontre d'une préceptrice anglaise avec la culture siamoise, à travers donc ses pacotis, son exotisme et ainsi de suite. C'est évidemment l'idée que l'usine à rêve se fait des cours non occidentales qui se déclinent. Inutile de se focaliser évidemment sur le Siam hollywoodien pour trouver des clichés à tous les sens du terme. Des images, photographies, dessins, gravures témoignent de la rencontre entre explorateurs ou voyageurs européens et cours dans le bassin du Congo lors de la course au clocher du Scramble for Africa pendant le dernier tiers du 19e siècle. L'exploration de l'Afrique équatoriale et plus précisément de l'intérieur du bassin du Congo présente un aspect qui se retrouve peu dans d'autres zones géographiques, à savoir qu'il est rare d'avoir une image, un croquis, un dessin exact qui précède de beaucoup l'obtention d'une photographie. Contrairement, par exemple, aux artistes africanistes qui ont suivi les explorateurs dans le Nord, enfin les Moyen-Orientaux, où il y avait évidemment une tradition de peinture qui a précédé l'arrivée des photographes. En effet, dans le bassin du Congo, la pénétration de l'intérieur a été réalisée par un certain nombre d'explorateurs ayant emmené dans leur bagage des carnets de croquis et des appareils photographiques, mais ils n'ont pas emmené dans leur bagage un artiste officiel de l'expédition. Donc la qualité de ces explorateurs en matière d'auteur de dessin peut être tout à fait remarquable et intéressante. Et les images qu'ils cherchent à présenter montrent une vision de l'Afrique qui, évidemment, bien sûr, vu les conditions de l'époque, se veut objective et bien sûr sans préconception picturale. Si on regarde les images de Henry Morton Stanley et de quelques autres réalisées au cours d'expéditions un peu plus postérieures, on trouvera des renseignements, je dirais, d'importance diverse. Les images permettent d'analyser la conception des voyageurs occidentaux concernant le portrait de souverains africains et donnent une bonne idée des problèmes techniques rencontrés au cours de leur expédition. Parfois, mais plus rarement, des remarques contenues dans des documents conjoints permettent d'envisager le rôle ou la place de l'image pour le souverain portraituré par les voyageurs ou les explorateurs. Quoi qu'il en soit, cette image source fait l'objet d'une relecture systématique pouvant être diffusée en métropole, et c'est à cette étape que véritablement le cliché se fabrique pour le public métropolitain. Deux types de sources aident à l'analyse de la documentation visuelle et retracent parfois les circonstances de la prise de vue. Dans un cas, ce sont les récits publiés par les voyageurs ou les membres des expéditions d'exploration. Le plus souvent, ces sources publiées nous donnent les circonstances de la rencontre et livrent avec une certaine précision, parfois politiquement plus ou moins correcte, l'opinion que les voyageurs peuvent avoir de leur hôte. Dans le second cas, ce sont les archives privées, correspondances à la famille, aux supérieurs hiérarchiques, en métropole, journaux personnels, carnets de route. Ces papiers abordent parfois le problème plus technique de la prise de vue, avec toutes les éventuelles anecdotes liées à la réalisation des portraits. Mais aussi, ils peuvent s'assortir d'opinions plus personnelles que les monarques, non dénuées, là encore, il faut toujours avoir ça en mémoire, d'arrière-pensée plus ou moins expansionniste. D'un point de vue la réalisation technique, les premiers problèmes qui se posent lorsque l'on souhaite ramener des photographies est évidemment, fin 19e siècle, quand Stanley part, il faut partir avec un pied, des caisses de plaques de verre en guise de négatif, un appareil avec une chambre à soufflet le plus souvent, et des caisses de produits chimiques pardon, excusez-moi, éventuellement pour le développement. On en est encore, en un certain sens, on en est encore au balbutiement de la photographie. Là, encore une fois, il faut garder ça en mémoire. À cela, il faut ajouter les conditions climatiques qui n'épargnent rien dans le bassin du Congo. La surface sensible est négative, moisie, voire est dévorée par les insectes. Et malgré tout le soin apporté à la préparation et à la fabrication du matériel en métropole, on a des champignons qui se développent dans les caisses d'acheminement ou même dans l'appareil lui-même. Le cuir des chambres à soufflet se décolle, le bois joue, les parties métalliques s'oxydent, l'ensemble complique évidemment sérieusement la prise de vue, sans compter les caprices de la météorologie et les autres problèmes plus spécifiques au fait que l'on essaye d'emmener des appareils lourds, encombrants et fragiles en voyage. Si les négatifs en verre n'arrivent pas cassés en Afrique, ils le seront lors de l'acheminement en retour vers l'Europe. Entre-temps, ils auront pu finir au fond d'un fleuve lors d'un naufrage, comme celui où faillit périr par exemple le Brazza en 1894. C'est un petit peu après le voyage de Stanley, évidemment. Mais c'est également intéressant de voir comment, à cette époque, dans cette région, ils sont plusieurs à essayer de ramener des images photographiques et donc comment ils communiquent par rapport aux problèmes qui sont liés. D'autres circonstances également intéressantes, quand vous essayez de faire de la photographie dans un cadre d'expédition d'exploration coloniale, vous pouvez voir vos négatifs et vos appareils sauter en compagnie de la poudre avec laquelle ils étaient rangés, ou encore être effacés par l'incurie de fonctionnaires à Paris qui ne tiennent pas compte des instructions écrites. Donc, c'est arrivé à un des lieutenants-colonels qui envoie ses plaques photographiques dans un colis avec une lettre. Ça arrive au bureau, dans son officine militaire à Paris. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah oui, mais les colis sont gérés à tel bureau, les lettres sont gérées à tel autre, donc on sépare les deux. Évidemment, on ouvre les deux côtés en plein jour, donc toute la production photographique est effacée. Stanley, lui, donc, comme les autres, fera les frais des difficultés techniques. Après avoir retrouvé Livingstone sur les rives du Tanganyika, Stanley repart en Afrique dès 1878. Son expédition va durer 3 ans. Il veut continuer un certain nombre de travaux de reconnaissance qu'il avait commencé et il veut traverser, entre autres, le continent d'est en ouest. À ce moment-là, l'explorateur anglo-américain est financé par un journal new-yorkais, un journal britannique, dont la mise de fonds est justifiée par le sensationnalisme et l'attente des lecteurs en matière d'exploration africaine. Pour Stanley, c'est également l'occasion, lors de cette longue expédition, de demeurer avec, tel qu'il apparaît dans les écrits de Stanley, Mtesa Duganda. L'explorateur est pour la première...